Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 8 janvier 2016. À la une ce soir.
La missionnaire suisse Béatrice Stokely, de nouveau enlevée à Tombouctou.
L'ONU et l'Union européenne mettent la pression pour un gouvernement d'union nationale en Libye.
Présidentielle en RCA, l'un des vainqueurs du premier tour réagit.
Une fois élu, il nous faut prendre les dispositions pour que la paix véritable revienne et la réconciliation nationale qui est la cohésion sociale.
Le candidat Faustin Archange Touadéra.
Et nous parlerons ce soir de la malnutrition dans le Sahel avec Florian de Jacquelot du CCFD.
C'est au moins plus de 4 millions d'enfants qui souffrent de manière chronique de la malnutrition et le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dépasse les 50 millions.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Au Mali, une ressortissante suisse a été enlevée cette nuit à Tombouctou. Béatrice Stokely avait déjà été enlevée en avril 2012 par des islamistes, puis libérée peu après grâce à une médiation du Burkina Faso. On fait le point avec notre confrère Yeya Tandina à Tombouctou.
Vers 3h du matin, 4 véhicules étaient aux environs du quartier d'Abaradjou, un quartier où il y a une forte concentration des populations. Donc autour du domicile de la bonne dame, elle est une Suissesse d'origine, une chrétienne qui est en mission d'évangélisation, qui a été enlevée encore une première fois en 2012. À 3h du matin, un premier véhicule était arrêté devant sa porte et qui a enlevé la bonne dame, il l'a emporté. Et jusque-là, on n'a pas de ces nouvelles. Un réenlèvement, parce que déjà, elle a été enlevée en 2012 et libérée. Elle est revenue encore 6 mois après la libération de Tombouctou, vers le mois de juin, parce que Tombouctou a été libérée en fin décembre depuis janvier 2013. C'est une femme âgée de la cinquantaine d'années. Elle a de bonnes relations avec les populations. Au plan social, elle a une bonne approche avec tout le monde. Quand elle passe, tout le monde, Béatrice par-ci, elle aussi, elle appelle les gens par leur nom. À son retour, je lui ai dit que Tombouctou n'est pas bien sécurisé pour que vous reveniez. Elle me dit, écoute, Tombouctou, c'est ma deuxième patrie. Je reviens parce que j'aime Tombouctou. Je suis prête à rester à Tombouctou.
Notre confrère Yeya Tandina à Tombouctou, au Mali.
Présidentielle centrafricaine, deux anciens premiers ministres s'affronteront au second tour prévu le 31 janvier. Anissé Georges Dolégué vient en première position avec 23,78% des suffrages, suivi de Faustin Archange Touadéra avec 19,42%. Pascaline Magalé a recueilli la réaction de ce dernier et Faustin Archange Touadéra affirme ne pas manquer d'atouts pour remporter la victoire au deuxième tour.
Moi, j'ai été Premier ministre dans un passé très très récent, pendant 5 ans. Donc, il y a eu du travail qui a été fait, j'ai un bilan. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxièmement, j'ai un projet de société où je propose une vision aux Centrafricains. Si on regarde bien ce projet de société, il y a des priorités. La première priorité, selon notre point de vue, c'est la paix et la réconciliation nationale. Une fois élu, il nous faut prendre les dispositions pour que la paix véritable revienne et la réconciliation nationale, qui est la cohésion sociale.
Faustin Archange Touadéra, candidat à la présidence en Centrafrique.
Élection en RCA toujours. Washington félicite les Centrafricains pour le déroulement pacifique et la forte participation au premier tour des présidentielles et législatives du 30 décembre. Un signe que les Centrafricains cherchent à nouveau un nouveau départ pour leur pays. Un avenir fondé sur la gouvernance démocratique et sans violence, estiment les États-Unis. En vue du second tour, le département d'État demande à toutes les parties de régler pacifiquement leurs différends sur les résultats.
Évasion dans l'est de la République démocratique du Congo. 50 détenus se sont échappés de la prison de Kamituga, dans le sud Kivu, dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après les autorités locales citées par l'AFP, ils ont profité d'un incendie dans le voisinage, ayant totalement désorganisé leur geôlier. Parmi les détenus évadés figurent 20 condamnés, dont 2 pour meurtre et 18 pour viol, indique l'administrateur du territoire de Mwenga, qui redoute des règlements de compte.
Guinée, le général Nou Thiam, ancien chef des armées, dit avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de son arrestation en 2011. Des faits qui se seraient produits durant le procès de 6 anciens responsables militaires pour des manquements lors d'une attaque contre le domicile du président Alpha Condé. J'ai été giflé, battu, blessé et humilié par un officier de la garde présidentielle, a accompagnée d'une dizaine de militaires, a déclaré le chef d'état-major des armées sous le régime de transition militaire dirigé par le général Sekouba Konaté.
Sanglante répression en Éthiopie. Au moins 140 personnes ont été tuées en 2 mois lors de manifestations anti-gouvernementales. Tel est le bilan annoncé par Human Rights Watch, qui pointe du doigt les forces de sécurité. Les protestataires dénonçaient un projet d'agrandissement de la capitale, Addis Abeba, craignant des expropriations de terres ancestrales du peuple Oromo.
En Égypte, le groupe État islamique revendique l'attaque contre un bus de touristes israéliens près d'un hôtel du Caire. Un assaut décrit par les autorités comme des faits de vandalisme qui n'ont pas fait de victimes. L'organisation terroriste a pourtant affirmé avoir fait des morts et des blessés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne se mobilisent pour tenter d'accélérer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en Libye, afin de freiner la progression du groupe État islamique et la multiplication des attentats. On fait le point avec John Lyndon.
La communauté internationale s'inquiète de la persistance du vide politique en Libye, divisé entre 2 pouvoirs rivaux et de nombreuses factions et milices. Un accord prévoyant un gouvernement d'union a été signé sous l'égide de l'ONU le 17 décembre par des membres des 2 parlements. Il doit être entériné le 17 janvier, mais les obstacles demeurent, notamment convaincre les durs de chaque camp. Il y a urgence au lendemain de l'attentat le plus meurtrier depuis la fin du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Plus de 50 personnes ont été tuées jeudi lorsqu'un kamikaze a fait exploser un camion-citerne dans le centre de formation de la police à Slidan, à 170 km à l'est de Tripoli. Cet attentat a été condamné par la communauté internationale qui, plus que jamais, appelle les Libyens à l'unité pour combattre le terrorisme.
Un combattant du groupe État islamique aurait exécuté sa propre mère dans la ville de Raqqa, bastion des djihadistes en Syrie. La mère lui avait demandé de quitter l'organisation et de s'enfuir avec elle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres. Le jeune de 20 ans a abattu sa mère en présence de plusieurs centaines de personnes, mercredi, sur une place centrale de la ville. À Raqqa, tous les garçons de 14 ans au moins sont tenus de s'inscrire à la police islamique.
La police belge a révélé aujourd'hui avoir découvert les empreintes digitales de Salah Abdeslam, fugitif recherché pour les attaques du 13 novembre à Paris lors d'une fouille dans un appartement de Bruxelles. Les autorités ont trouvé ces empreintes et 3 ceintures artisanales qui auraient pu servir à transporter les explosifs. Des traces d'explosifs ont également été repérées dans l'appartement durant l'opération qui s'est déroulée le mois dernier. Abdeslam est en cavale depuis le 13 novembre quand les adhérents du groupe État islamique ont lancé des attentats à Paris faisant au moins 130 morts.
Les forces israéliennes ont abattu, après une semaine de traque, un arabe israélien accusé d'avoir tué 3 personnes à Tel Aviv début janvier, dont 2 lors d'une fusillade, a annoncé la police dans un communiqué. Le tueur présumé, Nachat Melem, 31 ans, a été repéré alors qu'il se trouvait dans un bâtiment de son village d'Arara, dans le nord d'Israël, selon la police. Il a été tué lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre, a-t-on ajouté de même source.
Ici aux États-Unis, bonne nouvelle pour l'économie. 292 000 nouveaux emplois ont été créés en décembre. Et c'est la première et la plus grande économie du monde se porte bien, malgré les récents soubresauts sur les marchés internationaux. La moyenne mensuelle pour 2015 était de 221 000 emplois. Quant au taux de chômage, il reste à 5%. Cependant, près de 8 millions d'Américains sont encore sans travail. Et 6 millions ne trouvent que du boulot à temps partiel.
Et nous restons aux États-Unis. Le président Barack Obama a exhorté ses concitoyens à faire pression sur le Congrès pour mieux encadrer les armes à feu après une série de massacres à travers le pays. Il participait hier à une université de la banlieue washingtonienne à une réunion citoyenne télévisée organisée par la chaîne CNN. Idrissa Seydoudia.
Le puissant lobby des armes à feu aux États-Unis a décliné l'invitation de participer à l'émission, mais il y avait à l'université George Mason des gens favorables aux positions de la NRA, et ils ne l'ont pas caché au président. Cette semaine, Barack Obama a proposé l'obligation pour un plus grand nombre de vendeurs d'armes d'avoir un permis de vente et aussi de procéder à la vérification des antécédents des acquéreurs. Ces mesures, a-t-il souligné, ne constituent point une atteinte au droit constitutionnel des Américains de posséder une arme à feu. Cela n'empêche pas les États-Unis, a-t-il ajouté, de faire plus.
the Second Amendment. But all of us.
Je respecte le deuxième amendement. Il est cohérent de tout faire pour éviter que les armes ne tombent entre de mauvaises mains. Monsieur Obama a de nouveau accusé le Congrès, dominé par ses adversaires républicains, de rejeter les efforts pour renforcer les lois sur les armes à feu, disant que les législateurs sont à la merci de la NRA. Et il va continuer à faire campagne auprès du public américain pour un changement, assure la Maison-Blanche.
Morgane Guerriac et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place... C'est la fin du journal.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le cacao accuse le coup après avoir plafonné en 2015. Les cours de la fève à Londres et New York ont perdu respectivement près de 7% et 8% la première semaine 2016. Selon les experts, les prix pourraient continuer à baisser en raison d'un déficit pour la saison 2015-2016. L'offre en provenance de la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, s'est révélée positive récemment et la demande pourrait être refroidie par les prix élevés de ces derniers temps, ont expliqué les analystes de Commerzbank. La Banque de l'Habitat du Sénégal a lancé ce vendredi le PAC 35 destiné à faciliter l'accès aux logements sociaux dans les pôles urbains de Diamniadio, à 40 km de Dakar et du lac Rose, rapporte l'APA. Les Sénégalais pourront acquérir un logement de moins de 35 millions sans apport personnel au taux exceptionnel de 6%, a déclaré Bokarsi, directeur général de la BHS, ajoutant que la durée du prêt peut aller jusqu'à 25 ans. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, invite le gouvernement camerounais à multiplier les investissements dans les infrastructures, indique Financial Afrique. Pour Madame Lagarde, au Cameroun depuis jeudi, il est extrêmement important de mettre en place des politiques permettant de mieux résister aux chocs et privilégier les dépenses d'infrastructures dont la réalisation contribuera le plus à la croissance économique et à la création d'emplois.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
Nous passons tout de suite à l'actualité sportive, ce soir avec Saloua Jafari. Salut Saloua. Alors, on commence en football ce soir?
Bonjour Gabi, l'actualité sportive aujourd'hui, c'est tout d'abord le palmarès des CAF Awards avec le sacre du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Il devance l'Ivoirien Yaya Touré et le Ghanéen Andrew Ayew. Bien évidemment, ce classement n'enchante pas tout le monde, à commencer par Yaya Touré, détrôné de son titre de joueur africain de l'année qu'il a obtenu lors des quatre dernières années. L'Ivoirien n'a pas mâché ses mots, il s'en est pris directement à la CAF. Ses propos n'ont pas manqué d'irriter plusieurs internautes qui lui reprochent son manque de fair play, carton jaune donc pour Yaya Touré.
Un peu de réconfort tout de même pour Touré, la Côte d'Ivoire est toujours en tête du classement mondial de la FIFA pour l'Afrique.
Et oui Gabi, son pays mène le classement suivi de l'Algérie et du Ghana. Trois équipes nationales font une bonne progression, la Zambie, le Rwanda et la Tanzanie. Le Sénégal perd un rang en se positionnant à la 45e place. Alors j'ai une question pour toi Gabi, si tu avais le choix, quels sont les joueurs que tu sélectionnerais pour faire partie de la meilleure équipe du monde?
Alors là j'ai mes idées là-dessus, mais toi qu'est-ce que tu penses?
Alors pour moi, Gabi, Messi doit impérativement faire partie de cette équipe. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. On a posé la question à des milliers d'internautes pour déterminer l'équipe type de l'UEFA 2015, le 11 d'or. Et parmi les noms qui figurent dans cette équipe, Neuer, Alves, Ramos, Piqué, Messi, Ronaldo, Neymar, Iniesta et Alaba. Et puis cette déclaration de Michel Platini qui a retiré sa candidature à la présidence de la FIFA, il a affirmé vendredi dans l'équipe que ses ennuis sont partis de ses platers, le président sortant qui voulait sa peau, a-t-il dit. Rappelons que Michel Platini a renoncé à maintenir sa candidature à la présidence, faute de temps suffisant pour épuiser les différents recours face à sa suspension de 8 ans de toute activité liée au foot. Platini aura du mal à dribbler ce ballon.
Alors Saloua Jafari, on termine par du basket?
Basket Basket, Chicago a consolidé sa deuxième place dans la conférence Est du championnat nord-américain de la NBA en signant une sixième victoire consécutive, tandis que Kobe Bryant a décroché une énième distinction en passant les 33 000 points. Voilà, c'est la fin de cette minute sport. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end.
Merci Salwa pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous passons tout de suite au dossier du jour, Morgane. On va parler d'abord de malnutrition.
Un problème de santé publique dans les pays du Sahel. Selon les chiffres du Comité catholique de la lutte contre la faim et pour le développement, CCFD Terre solidaire, au moins plus de 4 millions d'enfants souffrent de manière chronique de malnutrition dans cette région où les personnes touchées dépassent 50 millions. Éric Manirakiza, adjoint en France Florian de Jacquelot, chargé du Sahel au CCFD.
À travers les visites de terrain, à travers les échanges avec nos partenaires, à travers ma lecture sur la zone, on voit que la malnutrition est l'un des problèmes de santé publique premiers dans ces pays-là. En cas de crise, on peut avoir jusqu'à 20%, voire plus, des enfants en situation de malnutrition aiguë. Et cette situation de malnutrition aiguë, si elle n'est pas traitée, est vraiment handicapant pour le développement. C'est plusieurs millions de personnes qui sont impactées par cette situation. Au Sahel, je crois que c'est au moins plus de 4 millions d'enfants qui souffrent de manière chronique de la malnutrition. Et le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dépasse les 50 millions.
Et quelle est la cause majeure de cette malnutrition dans le Sahel ?
L'une des causes vraiment principales de la malnutrition au Sahel, c'est l'agriculture, enfin dans le sens où les disponibilités alimentaires ne sont pas toujours suffisantes pour nourrir l'ensemble des populations. Et par-dessus ça, se rajoute l'effet du changement climatique qui impacte énormément l'agriculture de ces pays-là. On a déjà relevé, enfin les scientifiques ont relevé à peu près une température de 1 degré supplémentaire par rapport aux années 50, donc qui impacte bien sûr le développement de l'agriculture. Et puis, encore plus, c'est le régime des pluies qui est très variant. Les observations récentes depuis le milieu des années 90 montrent vraiment une variation importante d'une année sur l'autre des pluies. On a une année où il y a des pluies correctes et une année où il y a vraiment un déficit de pluie, qui entraîne du coup un déficit de production agricole. Les deux années 2010 et 2012 ont été vraiment des années déficitaires qui ont entraîné une crise alimentaire et nutritionnelle très importante dans ces pays. Et en particulier également le Niger sont vraiment très très touchés par ce phénomène de malnutrition. En particulier au niveau des systèmes de santé et sanitaires, il y a un vrai déficit dans ces pays-là qui résulte en fait d'une prise en charge pas optimal des enfants touchés, par exemple, par la malnutrition.
Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui l'arrêt de l'aggravation de la situation ?
Je pense que c'est vraiment difficile à dire. Comme je vous disais également au début, on voit depuis une quinzaine d'années vraiment une variation des pluies importantes. On a une année bonne et une année mauvaise. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. On n'est pas à l'abri d'avoir les prochaines années un déficit pluviométrique assez important et donc qui va vraiment replonger ces pays dans des crises alimentaires importantes, quoi.
Florian de Jacquelot, chargé du Sahel au CCFD.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Clôture ce 8 janvier des 10e journées champêtres organisées par le comité anti-Bouaké du Sud Kivu, c'est en République démocratique du Congo, une ONG locale de développement rural. Des milliers de producteurs et de consommateurs de produits d'élevage et d'agriculture ont répondu à ce grand rendez-vous placé sous le thème « L'agriculture durable et la protection de l'environnement ». Un reportage de notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero.
une grande effervescence que le territoire de Walungu au sud Kivu a accueilli les 10e journée champêtre organisée par le comité anti-Bouaki. Une occasion de valoriser les travails de paysans à travers le produit d'agriculture, d'élevage, l'artisanat et autres initiatives locales qu'ils entreprennent à la base en partenariat avec le comité anti-Bouaki, une ONG locale de développement rural vieille de 50 ans. Du 6 au 8 janvier, ces journées champêtres ont permis à plus de 1000 producteurs, opérateurs économiques du secteur privé, agriculteurs, éleveurs et artisans en provenance des Kalehe, Walungu, Kabare et Bukavu de partager leur expérience et faire connaître le fruit de leur savoir-faire. Pour Madame Edith Kokere, vice-présidente de la société civile de Walungu, les organisations internationales et le gouvernement congolais devraient appuyer davantage les efforts du paysan.
Et ce que nous sommes en train d'observer ici dans les stands, ce sont les productions des organisations à la base. Nous voyons ici à côté de nous les maniocs, nous avons là-bas les courges, nous avons des produits de l'élevage. Il y a même la transformation du soja en lait. Ce sont vraiment des nouveautés. Grâce à cette exposition, les bénéficiaires sont en train de trouver qu'ici, chez nous, il y a beaucoup de potentialités. Demandons à nos frères congolais qui sont en dehors du pays de vraiment faire des plaidoyers auprès d'autres organisations en dehors d'ici chez nous pour que ces organisations soient vraiment appuyées. Par exemple, par les microcrédits rotatifs, je crois vraiment qu'ils peuvent faire des bonnes choses.
Des délégations venues d'Europe, du Burundi, du Rwanda et du Katanga se sont également jointes aux délégations sud-kivusiennes. Ernest Nyonzimana, chef de la délégation burundaise.
J'ai accompagné une équipe d'organisation d'appui à la promotion du Burundi. On ne peut pas promouvoir une agriculture durable sans penser à l'environnement. Parce que la terre qui est le capital essentiel de la production doit être préservée, restaurée à tout moment pour que ça serve à la production pour les générations actuelles, les générations futures aussi.
C'est avec fierté que les comités de développement à la base ont défilé devant les décideurs exhibant les produits de leur label. Signalons qu'en marge de ces assises, des prix ont été remis aux meilleurs producteurs et produits sélectionnés pour encourager la créativité et l'innovation dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé hier que Téhéran va protester auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre le bombardement de son ambassade au Yémen par des avions saoudiens. Il s'agit là du dernier exemple de la détérioration des relations entre Téhéran et Riyad, qui a rompu cette semaine ses relations diplomatiques avec la République islamique. Pour un éclairage sur la rivalité entre l'Arabie saoudienne dite sunnite et l'Iran chiite, Idrissa Seydoudia a contacté le professeur Souleymane Béchir Diane de l'Université Columbia à New York, l'invité du dialogue des religions de ce mercredi.
Le conflit entre ces branches de l'islam remonte à la mort du prophète Mohammed, qui devait lui succéder à la tête de la communauté, son gendre Ali ou son compagnon Abou Bakr. Le professeur Diagne.
Le premier calife a été Abou Bakr. Ali sera lui-même calife, évidemment. Quatrième calife après Abou Bakr, Omar et Ousmane. Son califat se terminera tragiquement puisqu'il sera assassiné. Et son assassinat laisse libre champ à ce moment-là à la première dynastie qui s'installe, puisque jusque-là, il n'était pas question de dynastie. Abou Bakr n'aurait pas pensé se faire succéder par son fils, ni Omar, ni Ousmane. Les Omeyyades installent un principe dynastique. Autant les quatre premiers califes étaient des êtres de grande piété, autant les Omeyyades vont se distinguer par d'abord une morale individuelle qui laissait à désirer sur le plan de l'éthique islamique et d'autre part des exactions qui font qu'une révolte va se produire.
Hussein, fils d'Ali et petit-fils du prophète, a été ainsi encouragé à se révolter en tant que seul leader légitime pour sauver les musulmans de la dynastie des Omeyyades et de Yazid, leur chef. Mais Hussein se retrouvera tout seul à Karbala, dans le sud de l'Irak, face aux troupes de Yazid.
Quand il viendra les trouver avec une toute petite troupe, il ne se porteront pas à son secours. Il a dit de faire massacrer la petite équipe. Il ne laisse vivant qu'un seul fils de Hussein parce qu'il était lui-même très malade et mourant. Ils se sont dit que ce n'était pas la peine de le tuer.
Tous les 72 membres du groupe de Hussein, dont sa famille, des femmes et des enfants, ont été massacrés à Karbala. C'est à cette date, en 680, que la rupture sera véritablement consommée entre chiites et sunnites, souligne le professeur Diagne.
La rupture s'effectue en ce moment absolument dramatique et tragique. C'est là que la rupture entre les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali et de sa famille, et ça appelait eux-mêmes les sunnites, c'est-à-dire les continuateurs de la tradition du prophète, c'est là que cela va se cristalliser. Et par la suite, maintenant, une rupture qui a eu lieu sur la question politique de la succession va en quelque sorte s'approfondir théologiquement. Au cours du temps, il va y avoir une élaboration d'une lecture chiite de l'histoire religieuse qui estimera, par exemple, que la prophétie devait ensuite se poursuivre par l'imamat, qui est que les différents imams devait en quelque sorte succéder au prophète parce qu'il était normal que la prophétie fût continuée par l'imamat. Et vous avez donc des élaborations doctrinales qui vont faire que vous aurez deux approches théologiques différentes. Mais la différence ne touche pas véritablement au dogme, c'est le même texte religieux, c'est le même Coran, c'est la même reconnaissance du prophète.
Le professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Vous utilisez Netflix, Morgan ?
Oui, très souvent.
Très souvent, et moi aussi. Mais savez-vous que Netflix est désormais en Afrique, le site de streaming vidéo a lancé ses services, écoutez bien, dans 130 nouveaux pays cette semaine, dont bien sûr les 54 qui sont sur le continent africain. Alors, la question que l'on se pose, comment Netflix fonctionne sur le continent ?
Isha Serraï a posé la question à Sadi Bousso, directeur de publication d'Africa IT News.
Ce que Netflix peut offrir, c'est un service de streaming vidéo de haute qualité avec du contenu qui était pour le moment encore indisponible en Afrique. Des émissions de télévision qui étaient seulement disponibles via des services d'abonnement comme Canal+, DSTV. Ces services existaient déjà en Afrique et proposaient le genre de contenu qui sont disponibles sur Netflix. Mais c'est des services qui sont beaucoup plus chers et qui ne sont pas forcément disponibles sur Internet. Donc l'excitation derrière l'arrivée de Netflix est principalement basée sur ça. De la qualité de contenu, du streaming très fidèle, très rapide, à des tarifs très accessibles.
Mais si on prend en considération les problèmes de connexion Internet en Afrique, Netflix a-t-il des chances de réussir sur le continent ?
Il faut rendre que Netflix arrive en Afrique et cible une classe moyenne qui est déjà connectée d'une manière générale, qui a accès à Internet au bureau, qui a accès à Internet à la maison. C'est vrai que les réalités sont très différentes de pays en pays. Au Sénégal, par exemple, plusieurs personnes qui se sont abonnées ont pu consommer Netflix de manière très, très satisfaisante. En Côte d'Ivoire, certains disent que la connexion n'est pas très bonne. Au Bénin, certains disent qu'ils n'ont même pas réussi à streamer des émissions. Ce qui est clair, c'est que la tendance à travers le continent est l'amélioration de la connectivité.
Et vous avez cité des stations de télé, DSTV, Canal+. Alors, est-ce que Netflix sera vraiment en concurrence avec des stations de télé ou l'industrie du cinéma, et comment peuvent-ils réagir ?
Plusieurs personnes disent que oui, certains disent que non. Ce que Netflix propose, c'est du contenu dont les Africains raffolent, enfin une classe d'Africains raffolent, sur Internet. Plusieurs statistiques ont prouvé que, par exemple, au Nigeria, qui est l'un des pays les plus connectés au monde, via les téléphones portables, les jeunes suivaient de moins en moins la télévision et passaient plus de temps sur leur téléphone portable où ils peuvent sélectionner le contenu qui leur est distribué. C'est-à-dire qu'ils sont sur YouTube, ils regardent des vidéos de musique, ainsi de suite. Alors cette jeune génération-là, qui décidera des habitudes de consommation dans les années à venir, vu qu'elle utilise les terminaux portables et les ordinateurs pour consommer du contenu audiovisuel, c'est un gros risque pour ces acteurs qui faisaient la majorité de leurs chiffres à la télévision, parce que si les gens ne suivent plus la télévision mais regardent le contenu sur leur téléphone portable et que Netflix propose la meilleure offre, ben les gens regarderont Netflix.
Sadi Bousso, directeur de publication d'Afrique IT News. Et C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph. Présentation chez Rubin d'Orsil et Morgane Guiriec.
On salue Cédric Franklin à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas, on est ensemble 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.